Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A priori, tu connais le sujet, puisque le sujet, c'est toi. Ta vie, ton œuvre.
Waouh. Ça va donc être génial et un peu gênant.
Je vais le garder comme pitch pour les podcasts. Génial et un peu gênant.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Impertinentes. Cette semaine, je suis allée tendre le micro à l'illustratrice et bédéiste Si C.Y., dont vous connaissez peut-être déjà le travail. Elle est l'autrice des bandes dessinées Le vrai sexe de la vraie vie, dont le premier tome est sorti en 2016 et le deuxième en 2018. Cyrielle Évrard, de son vrai nom, tient également une chaîne YouTube sur laquelle elle partage des conseils, des tutos, mais aussi des décryptages de publicités, des commentaires de la vie de freelance et de ses multiples pièges. Si prend régulièrement la parole sur les réseaux sociaux au sujet des droits et des libertés, et notamment en ce début d'année 2020, au sujet du statut des artistes-auteurs. J'ai saisi l'occasion de notre rencontre pour faire un point sur la situation des artistes-auteurs, et à ce propos, deux informations. La première, c'est que cet entretien a été enregistré en février, à une époque où l'on pouvait encore être invité dans le salon des gens et commenter leur décoration intérieure. C'est fort plaisant à réécouter par ces temps de confinement. Depuis notre rencontre, il y a eu du nouveau au sujet du rapport Racine, ce qui m'amène à ma deuxième information, c'est que si la question du statut des artistes-auteurs a éveillé votre intérêt ou votre curiosité, sachez qu'un épisode d'Activiste arrive dans les prochaines semaines en compagnie de Samantha Bailly, présidente de la Ligue des auteurs professionnels. Enfin, un dernier point. Pendant cet entretien, Si annonce la sortie de sa prochaine bande dessinée, Radium Girls, pour avril 2020. Pandémie oblige, cette sortie a été reportée à août 2020. Je compte sur vous pour noter la date dans vos agendas et revenir bien vite dans vos librairies préférées afin de soutenir les artistes et les commerces auxquels vous êtes attachés. Voilà, j'en ai fini pour les annonces. Je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Si. On a beaucoup, beaucoup ri. Désolée pour la saturation, j'ai préféré garder les rires qui saturent. Par les temps qui courent, ça fait quand même du bien. Bonne écoute.
Bonjour Cyrielle.
Bonjour.
Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?
Je suis autrice de bandes dessinées.
Mais ne me dites pas que vous êtes Cyrielle aka Si, des dessins de Si ?
Mon Dieu, vite que je remette vite mon costume. Tu m'as percé à jour. Oui, tout à fait, c'est moi.
C'est à toi qu'on doit Le vrai sexe de la vraie vie, tome 1 et 2. C'était tes premières bandes dessinées ?
Oui, c'était mes premières bandes dessinées publiées, parce que j'en ai publié une bonne palanquée en ligne, mais voilà, c'est les premières qui ont été imprimées sur du papier.
À quel moment de ta vie t'as su que tu voulais devenir illustratrice ?
Alors tard, super tard, parce que quand j'ai commencé à me dire que « Ah, mais il y a des gens qui font ce métier », et ben tout de suite après, j'ai eu une petite partie de moi qui m'a dit mais tu vas pas en vivre, tu vas jamais réussir à en vivre. Très très tôt. En fait, je me suis dit que j'allais pas pouvoir en vivre, que ça allait pas pouvoir être mon métier. Donc, j'ai commencé à réaliser que je pouvais en faire mon métier, je pense, quand je suis devenue freelance. Donc, ça a mis du temps. Bon, peut-être si un peu avant, quand j'étais à mon premier job, mais je pensais toujours pas en vivre complètement comme maintenant. Donc, on va dire qu'il y a pas si longtemps que ça. Et je pense encore maintenant que c'est quelque chose qui peut s'arrêter, tu vois. Genre, potentiellement, là j'en vis, mais j'en vivrai peut-être pas dans 6 ans, 7 ans, même dans 2 ans, parce que j'ai aucune visibilité.
Alors on va y revenir, mais avant tu disais que tu te disais « je peux pas en vivre », mais c'est quelque chose que tu te disais ou que le reste du monde te renvoyait ?
Je pense que c'est la société qui me le crie à la gueule, mais... mais... Bon, il n'y avait pas un monsieur avec un t-shirt société qui me disait « tu vas jamais en vivre !» mais en vrai, voilà, c'est un truc de tacite. Je peux même pas dire que c'est mes parents, parce que mes parents m'ont toujours poussé dans ce sens-là. Ils m'ont jamais dit « arrête de dessiner » ou des choses comme ça. Par contre, il y a quand même un truc tacite, c'est que mes parents m'ont dit « bah ah, t'aimes le dessin, bah peut-être fais graphisme, comme ça, ça pourra te faire une première porte. Et mais je pense que toute seule, je me suis, enfin toute seule et la société en l'occurrence, je me suis dit, bah si je veux pas finir sous un pont, il va falloir que je trouve un autre métier.
Et pour toi, c'était quoi le moment de basculement, c'est-à-dire le moment où tu sors de bon, c'est une passion, j'adore ça, mais ça va être galère, à ok, en fait, c'est un métier, je vais pouvoir en vivre et voilà ce que je dois faire ou comment je dois m'y prendre pour réussir à en vivre.
Il y a la théorie et la pratique. C'est-à-dire que la théorie où je me dis « Ah, ça pourrait potentiellement être un métier », c'est quand je me suis rendu compte que le strip n'était pas forcément d'utilisation juste bande dessinée. C'est quand j'ai commencé à voir plus loin que juste le livre sorti en papier. Parce que c'est pour ça que souvent on me dit « Oui, ta première BD, mais en fait j'en ai publié des centaines des bandes dessinées avant, mais c'est juste qu'elles n'étaient pas imprimées sur papier. » Et c'est, en fait, c'est quand je me suis dit « Mais en fait, il y a des gens qui veulent me payer pour faire des BD numériques, en fait, pour faire de la vulgarisation, des choses comme ça. » Donc je pense que c'est quand j'étais encore salariée que j'ai commencé à avoir des clients qui sont venus me voir pour me commander en fait, des BD de vulgarisation. Donc là, je me suis dit que ça allait la pratique, mais après sinon la théorie, bah, je voyais bien qu'il y avait des gens qui sortaient des BD, donc potentiellement ils pouvaient en vivre. Enfin, je supputais qu'ils pouvaient en vivre. Bon, c'est la bande dessinée, hein. On en survit plus qu'on en vit.
Alors justement, c'est une bonne situation ça, illustratrice.
Écoutez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, mais en l'occurrence, la situation des artistes auteurs n'est pas non plus des meilleures.
Alors je voulais qu'on en parle parce qu'on enregistre ce podcast un bon mois après Angoulême, et aussi un bon mois avant la sortie de ta prochaine BD, donc on en parlera aussi. Mais je t'ai vu prendre la parole à de nombreuses reprises sur les réseaux sociaux, notamment autour du statut des auteurs, autour de la rémunération. Donc je voulais qu'on ait une occasion d'en parler. Est-ce que tu peux me raconter, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier à Angoulême en ce début d'année ?
Alors, il s'est passé énormément de choses sur plein de postes différents, en fait. On va dire que c'est un merdier général composé de plein de catégories sous-catégories.
On a tout notre temps, c'est parti. Fais-nous visiter le merdier.
Oh ! Alors, vous pouvez regarder à droite, qui est notre sécurité sociale. Je viens de littéralement montrer à gauche, donc c'est pour vous dire. Bon, bref, t'es pas très radiophonique. Hein, mais
je le garde au montage, hein, je veux bien.
Donc, en fait, alors, donc on va commencer. En fait, déjà, non, on va prendre plus général. Le statut des artistes auteurs, il est un peu particulier parce qu'il est un peu entre deux. Ça veut dire qu'on n'est pas, on n'est pas salarié, on cotise pas au chômage, on n'a pas les avantages comme ça. On fait partie des indépendants, mais en fait, on a un statut particulier. C'est artiste-auteur, c'est ce qu'on appelle l'exception culturelle. Donc c'est, j'ai plus les dates.
Oui, c'est pas grave.
Faut se référer à Samantha Bailly, si c'est ça. Parce
très bien.
Samantha Bailly est une des meneuses de la lutte pour les artistes-auteurs. N'hésitez pas à la suivre sur les réseaux sociaux, vous aurez plein de choses beaucoup plus détaillées que ce que je raconte. Donc il s'avère que les artistes-auteurs sont hyper précaires. Il y a eu des rapports et des rapports qui sont sortis. Faut savoir qu'on est 60% à être sous la barre en fait du SMIC, dont 30% sous le seuil de précarité, donc vraiment, enfin de pauvreté. Donc c'est énorme, c'est énorme le nombre de personnes là-dessus.
Ça rejoint ce que tu disais à l'instant sur ok, donc c'est pas un métier dont on peut vivre.
Et voilà, tout à fait. Ça veut dire que on entend même d'éditeurs, ah oui, mais si tu t'en sors pas, prends un autre métier, hein.
C'est quand même... Les éditeurs disent ça.
Oui, pas tous, mais il y a des éditeurs, on s'est déjà fait entendre, on a déjà entendu ça. En fait.
Ça paraît complètement lunaire, parce que c'est comme si à une actrice, on lui disait si t'arrives pas à en vivre, prends un métier à côté. Alors oui, quand tu fais du théâtre amateur, que tu travailles à côté, je veux bien l'entendre, mais sinon t'es intermittent du spectacle.
Quand t'es professionnel, quand t'as une personne qui, en fait, avec qui tu bosses normalement en tandem, te dit... Moi, je suis payée, mais...
Mais pas toi.
Pas toi. C'est un peu bon. Tu sais, tu te dis... tu te fous de qui, quoi. Donc, c'est très compliqué. C'est un contexte très tendu aussi sur plein de choses. C'est-à-dire que ça a beaucoup bougé pour les artistes-auteurs, là, récemment, comme ça a beaucoup bougé pour les cheminots. Là, il y a beaucoup de choses qui bougent. Enfin, ça n'a pas à bouger. C'est ce qui est en train de... On est en train de remuer la merde, quoi. Enfin, c'est vraiment ça. Et le gros point fort, ça a été la sortie du rapport Racine, qui est un rapport qui a été commandité depuis un bon bout de temps. Et en fait, le rapport Racine, c'est un monsieur qui s'appelle Racine, Bruno okay. Racine. ça n'a pas été donné comme ça. Et qui fait un état des lieux sur la situation des artistes-auteurs. Pas sur la chaîne du livre, pas sur les éditeurs, mais sur les artistes-auteurs. on n'en avait encore jamais eu. Tout le monde s'était intéressé à la santé de la chaîne du livre, des choses comme ça, les acteurs et tout. Mais la base même d'un livre, c'est l'auteur. On n'avait jamais eu aucun rapport là-dessus.
Donc attends, c'est la première fois qu'on fait un rapport sur la situation précise des artistes-auteurs.
Oui,
et artistes-auteurs, c'est à la fois les auteurs de romans, de livres, mais aussi illustrateurs de bandes dessinées, scénaristes de bandes dessinées.
Et tu peux même regrouper dedans les photographes, les scénaristes. Et il me semble que les vidéastes vont commencer à être dans les artistes-auteurs. Enfin voilà, donc ça regroupe énormément de monde.
C'est les gens qui sont quelque part à l'origine de la création de ce type de projet artistique.
Tout à fait, c'est les personnes qui récupèrent du droit d'auteur.
Ce que tu disais tout à l'heure, une BD peut exister en ligne sur des blogs, un livre peut être auto-édité, c'est pas du tout la même chaîne, mais en fait l'histoire elle peut exister sans les autres maillons de la chaîne, en revanche le livre ne peut pas exister sans l'artiste-auteur.
Et non.
J'ai compris.
Et non. Donc voilà, c'est ça. Et en fait, le problème, c'est que ce rapport, il fait un état des lieux qui gêne beaucoup de monde. Mais alors, vraiment beaucoup de monde. Et qui crée une levée de boucliers. Sauf que c'est bien parce que ça remue vraiment. Et ça a permis de...
Alors d'abord, l'état des lieux. Tu parlais de 60% des artistes-auteurs qui sont en dessous du SMIC.
Ouais.
30% en dessous du seuil de pauvreté.
Ouais.
Qui doit être en France à 800 euros.
Que oui, quelque chose comme... J'ai pas le chiffre, mais oui, c'est plus bas que le SMIC. Oui. Ça, c'est clair.
Est-ce qu'il y a d'autres points qui...
Oui,
de
l'état des lieux ? Il y a une très grosse... un très gros lièvre qui a été levé. C'est que, en fait, donc... La sécurité sociale des artistes-auteurs, en fait, les organismes qui prélèvent les cotisations, ça s'appelle la MDA, donc la Maison des artistes, et la GESA. En fait, ils se sont partagés une partie des artistes-auteurs chacun. La Maison des artistes a fait son taf pour les cotisations. Il s'avère que la GESA ne l'a pas fait pendant 40 ans.
Mais c'est-à-dire ?
Ça veut dire qu'il y a 190 000 auteurs qui ont été amputés sur leur retraite et que ça peut varier de quelques trimestres qui n'ont pas été prélevés à 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a des artistes-auteurs qui prennent leur retraite et qui se rendent compte qu'ils ont cotisé toute leur vie, et en fait non.
Mais enfin, comment c'est possible ?
Alors en fait, c'est très simple, parce que beaucoup de gens disent « mais c'est scandaleux, mais enfin, les artistes-auteurs ils sont assez stupides pour pas regarder qu'il n'y a pas la ligne de cotisation vieillesse sur votre relevé. » Et c'est pas si simple que ça.
Déjà qu'ils regardent ces fiches de paye pour vérifier qu'il y a bien la ligne de la cotisation retraite.
C'est bon, balaye devant ta porte, ok ? Hein, Jean-Mi ? Donc, en fait, il s'avère que la Maison des artistes, on met de côté parce que eux ils ont prélevé, donc il n'y avait pas de souci.
Et c'est un choix, tu peux choisir de cotiser à
non,
l'un ou l'autre.
La Maison des artistes, c'est plutôt les arts graphiques. Et la GESA, c'est du pur droit d'auteur, donc quand tu publies un livre ou des choses comme ça. Il faut savoir que la GESA, il y a un truc qui s'appelle... quand tu publies un livre, il y a un truc qui est en place qui s'appelle le précompte. Ça veut dire qu'il prélève directement ta cotisation. C'est pas toi qui va la déclarer, il prélève directement et t'as rien à redébourser.
Okay.
Donc ça veut dire que tu n'as aucune visibilité sur ce qui est vraiment prélevé ou pas. Moi je sais que si vous annoncez, faites toujours une dispense de précompte et payez vous-même vos cotisations.
Comme ça tu vois ce que tu
Comme
payes.
Comme ça tu vois ce que tu payes. Bon, ça fait mal.
Parce que tu payes.
Parce que tu vois ce que tu payes, mais ça te permet de deviser en conséquence.
Ok.
Donc... ayez toujours en tête que vous allez avoir 20% qui vont partir. Voilà. Et
on est encore parti pour pas devenir riche.
Non. Genre quand les gens me disent ah champagne, tu vas fêter ta sortie, je suis genre cidre. Cidre les gars. Bref. Et donc voilà. Et en fait, il s'avère que le précompte, et quand les auteurs recevaient leur fiche, il y avait marqué précompte à GESA. Mais il n'y a pas marqué dedans s'ils l'ont pris, pas pris, s'ils ont pris des cotisations et pas d'autres. Donc ça faisait un énorme flou. Il faut savoir que c'est très opaque, la sécurité des artistes, la sécu sociale. Pareil pour la complémentaire retraite. Mais je pense que c'est partout pareil. Plus c'est opaque, moins tu mets ton nez dedans et plus tu... Oh, c'est pas grave. Ils doivent bien faire leur taf. Ouais, pendant 40 ans, ils ont fait de la merde. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a été migré en catastrophe, là, à un truc qui s'appelle l'URSSAF Limousin.
Ok.
L'URSSAF, on connaît bien, mais on savait pas qu'on allait tous être migrés en catastrophe à l'URSSAF Limousin.
Le Limousin ne peut pas accueillir toute la misère.
Mais je pense qu'ils ont fait exprès de nous mettre au Limousin en disant « Il y a combien d'artistes-auteurs au Limousin ?» Bon, ils viendront pas nous faire chier. Et en plus, c'est impossible d'aller les voir en direct. On peut plus les voir en direct, c'est que par téléphone. Donc, tu peux même pas aller gueuler, tu peux pas aller prendre tes vacances dans le Limousin pour aller gueuler... à l'Ursaf Limousin, bref. Et donc voilà, et ça a été une catastrophe aussi, la migration. Il y a eu des gros soucis de traitement. Ça veut dire que tout le monde a reçu le même échéancier de paiement, que ça soit la personne qui est cotisée à je sais pas combien. Et que, par exemple, il y a des jeunes qui venaient d'ouvrir leur statut, ils se retrouvent à devoir sortir 1000 euros de cotisation. Et ils sont en mode genre, lol, j'ai même pas 1000 balles sur mon compte. Donc qu'est-ce que tu veux ? Bon, c'est segmenté, bien sûr, c'est en trimestre. Donc ça a été...
Oh, ça reste beaucoup d'argent même en trimestre. Hein.
Oui, ça fait 200... Il y avait 245 balles, c'est déjà énorme pour quelqu'un qui se lance, tu vois. Et donc ça a fait un énorme scandale.
C'est quand même fou qu'on ne se soit jamais intéressé. Alors je vais reformuler, c'est fou que les pouvoirs publics ne se soient jamais intéressés au statut des artistes auteurs. Enfin, vous relevez bien du ministère de la Culture.
Oui, en fait c'est entre les deux, c'est le cul entre deux chaises, c'est entre les affaires sociales.
Pourquoi les affaires sociales? Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans?
Agnès Buzyn...
Oui, c'est ça, Santé, oui. Solidarité, ouais. Ah oui, parce que...
c'est cul.
Ok, j'ai compris. Sur le point de cotisation, oui, etc., sûr. Ça relève de la santé. Ah, c'est comme ça que vous passez à la trappe. Ok.
Mais en fait, c'est que ça n'a pas été tellement passé à la trappe parce qu'il y a eu un rapport à la Cour des comptes qui a été fait avant pour la GSA. Mais en fait, en gros, pour te dire, parce que on est allé voir la GSA en mode genre 40 ans et ils nous ont répondu. On avait des problèmes techniques. on n'avait pas l'argent pour faire ça informatiquement parlant. On n'a pas pu le faire, alors que la Maison des Artistes y a très bien réussi. Enfin, c'est encore plus vaste que ça, mais là, je le vulgarise vraiment. Donc, ça rend zinzin, quoi, parce que tu te dis, mais déjà que seuil de précarité, donc en plus, si tu chantes des trimestres, imagine, de retraite, t'arrives à la fin, mais... Merde, j'espère que... Enfin, comment tu t'en sors ?
On est d'accord que c'est le statut d'artiste-auteur, c'est pas comme l'intermittence. Il n'y a pas des périodes de chômage qui sont compensées, en fait.
Zéro
backup. T'as pas de travail, t'as pas d'argent.
Voilà, pas de backup et un méandre pas possible. Par exemple, pour... Là, j'ai une pote qui est enceinte. Congé maternité, mais... Bah alors là, tu vois Astérix et Obélix, là, genre vous avez le formulaire B122, et bah c'est vraiment ça.
C'était pas une promesse de Marlène Schiappa de mettre en place un congé de maternité pour les indépendantes ?
Je sais pas.
Non, bah, ça dit rien.
C'est pas arrivé jusque-là. Bah, okay. Je t'avoue que congé de maternité m'intéresse très peu. Moi, c'est plus. Mais en fait, après, c'est plus par exemple aussi pour la congé maladie. Hein. Moi, sincèrement, si je suis malade pendant 3 jours, bah, j'abandonne l'idée tout de suite d'avoir poser un congé maladie. C'est pas possible. Parce que je sais que ça va me prendre plus d'énergie que ce que j'en ai. Donc, à la limite, si je me pète une jambe, peut-être que je vais m'y intéresser, mais c'est juste si je me pète une jambe, tu vois. Genre, le congé maladie, faut pas y penser, on n'a pas de backup de chômage, enfin, donc c'est très compliqué à mettre en place.
Alors, est-ce que ce rapport Racine comporte des aspects encourageant ou positif, parce qu'il y a des pistes de solutions qui sont avancées pour peut-être que ça devienne un vrai statut, parce que là j'ai juste l'impression que c'est un titre et c'est un titre.
Oui. Alors en fait, il y a 23 recommandations.
Ah, quand même.
Il y a 23 recommandations. Oui, quand même. Ils ont bien taffé quand même. Monsieur Racine a beaucoup travaillé. Et en fait, il y a 23 recommandations que je ne vais pas toutes lister là, parce qu'en l'occurrence, elles ont été très bien synthétisées, parce que le rapport Racine, c'est une... je ne sais plus combien de pages, 140 pages de trucs un peu obscurs, parce que c'est très dense. Tous les syndicats sont en train de s'évertuer à le simplifier, à le synthétiser, etc. Et je crois que c'est sur la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, donc sur l'Instagram. Ben, vous pouvez aller voir, et il y a les 23 recommandations qui sont synthétisées pour expliquer vers quoi ils veulent mener, etc. Et oui, il y a plein de choses qui vont être mises en place. D'ailleurs, aujourd'hui, donc nous sommes quel jour ?
Nous sommes mardi 18 février.
Mardi 18 février, Franck Riester, donc ministre de la Culture, a fait une allocution là au ministère de la Culture pour présenter le calendrier des avancées en fait, des propositions quoi. Donc là, je sais pas, j'ai pas de retour encore parce que forcément ils y sont encore. C'est les syndicats, ils sont encore. Puis ben on va voir en fait. C'est juste que c'est la première fois que un ministre s'y intéresse autant. Enfin, c'est pas la teuf non plus, mais c'est la première fois qu'un ministre se penche sur la question en disant ah oui, il y a quelque chose à faire. Enfin, on a de l'espoir quand même, tu vois, genre que les choses se bougent et qu'ils le fassent vite avant que le quinquennat se finisse. C'est surtout ça.
Oui, j'allais dire, je crois que pendant ce quinquennat, pour réussir à obtenir une avancée, il faut surtout attirer l'attention du président de la République.
Oui.
Emmanuel Macron était à Angoulême. Oui. Est-ce que ça a joué? À ton avis, je te demande ton avis, évidemment.
Je sais pas du tout, parce que ça a été... Alors, je pense qu'il y a, sur la symbolique, ça faisait 30 ans qu'il n'y avait pas eu un président qui était venu à Angoulême. Enfin, qui est pour le festival. Bon, il me semble que c'était bien 30 ans. Ça se trouve, je dis une connerie. Mais c'était il y a très longtemps.
Je ferai du fact-checking.
Voilà. Et donc, sur la symbolique, oui, effectivement, c'est important. Après, je sais pas du tout, tu vois, c'est des... Tu sais, genre, j'aimerais y croire, tu vois, j'aimerais y croire que ça avance. Bon, bah, espérons que ça... Peut-être, peut-être pas, on verra bien, en fait. On verra bien sur... Ce qui va passer, ce qui va être... Nous, ce qu'on veut, c'est que l'intégralité des recommandations du rapport Racine soit appliquée.
Concrètement, ça voudrait dire quoi pour quelqu'un comme toi? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu espères voir mis en place en France pour que tu ne dises pas ce que tu as dit en introduction, à savoir, je ne sais pas si je vais pouvoir continuer à en vivre, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et ben, effectivement, j'ai entendu aussi Pénélope Bagieu prendre la parole sur le sujet. Elle s'est fait interpeller sur Twitter en disant « Ah là, elle pleurniche qu'on gagne pas sa vie en étant auteur. » Elle a répondu « Non mais, je sais que moi je suis une exception. Je sais très bien que moi je suis une exception dans cette profession hyper précarisée. Ouais. » Donc qu'est-ce que t'espères qu'il soit mis en place dans les mois et les années à venir pour que vous ne soyez plus globalement une profession aussi précarisée?
Alors déjà, puis en plus, j'ai envie de dire, Pénélope, elle est là où elle est maintenant, mais elle en a chié comme tout le monde au début. Donc au bout d'un moment, effectivement, elle a eu une évolution gigantesque et vraiment géniale. Et c'est génial aussi qu'elle prenne part encore maintenant en ayant cette position-là. Moi, ce que j'aimerais... Alors déjà, il faudrait régler tout le bordel avec la Sécu et désopacifier tous les soucis qu'il y a, genre là, par exemple, avec la Sécu, les complémentaires retraites, etc., pour remettre d'équerre. Ça, c'est au court terme.
Remise à plat, transparence. Les cotisations sociales, santé, retraite.
Il y a aussi une demande d'élection professionnelle pour qu'on soit sur que les auteurs élus aillent siéger pour, en fait, leur avenir. Parce que pour le moment, il n'y a personne, il n'y a aucun auteur élu autour de la table. Il y a ce qu'on appelle les OGS, qui sont les organisations de gestion collective.
La table, tu parles de négociation avec le ministère ?
Oui, négociation avec le ministère. Enfin, globalement, en fait, autour de tout ce qui impacte directement le quotidien des artistes-auteurs. Par exemple, quand il y a eu des revalorisations... En fait, ça paraît, c'est très pointu, tout ça, mais quand il y a eu une demande de revalorisation, donc en gros, la complémentaire retraite, c'est un obligatoire. Ça s'appelle l'IRSEC. Il a fallu passer un pourcentage. Ils ont voulu passer un pourcentage de 4%. En fait, c'était pas obligatoire. Et ils ont voulu tout de suite le mettre à 8% en disant « Bon, maintenant, on va rendre obligatoire et ça sera à 8%. » Sauf que aucun auteur ne pouvait l'assumer. C'était presque un mois de salaire. Tu te rends compte ? 8%. Donc... ça a fait un énorme scandale, sauf que le gros problème, c'est qu'on a réussi à faire en sorte que ce ne soit pas obligatoire tout de suite, mais autour de la table, il n'y avait aucun auteur
pour venir dire, vous ne vous rendez pas compte que ça,
c'est... On ne peut pas faire ça.
Ouais.
Et en fait, tu vois, il y a des espèces de gens qui sont en place, qui font leur taf, mais qui n'ont aucune conscience du terrain. C'est le gros problème de tout le gouvernement, par exemple, sur tous les trucs, sur les cheminots, les médecins, les urgences, etc. Il y a des décideurs qui n'ont pas forcément conscience de ce qui se passe sur le terrain. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est des élections professionnelles, déjà, pour faire venir des auteurs autour des tables, etc. Ça, c'est hyper important. Pas être représentés par des gens qui ont aussi leurs intérêts à défendre, parce qu'il y a des gros problèmes de lobby, etc.
Une mesure qui, pour toi, est vraiment importante, vraiment primordiale, ce serait laquelle ?
Il y a aussi, elles sont toutes hyper importantes, mais celle qui est aussi importante, c'est partir sur un pourcentage de 10% pour le livre. Parce qu'il faut savoir que quand vous achetez un livre, très souvent, l'auteur, sur ce prix du livre, il a 8%. Et encore, c'est pas la jeunesse. La jeunesse, c'est 4%. C'est 6%. Ça peut arriver, les livres illustrés, mais la jeunesse, c'est moins. Donc voilà.
Alors, si vous êtes deux, un scénariste et une illustratrice,
ça
par exemple...
Ça se partage.
C'est 8...
Le camembert s'ouvre pas.
Ok, Ça se, c'est pas chacun ça 8%.
Non.
Okay.
Oh non. Et c'est pareil pour l'avance.
J'ai l'impression d'avoir d'une énormité alors que bon.
Non,
okay,
non.
D'accord.
Non, mais c'est, non, mais c'est logique. C'est logique ce que tu racontes. C'est, si on est plusieurs, et ben en fait, non, si on est plusieurs, on n'ouvre pas le camembert. Le camembert, il est fixe et vous vous partagez dedans. Faut pas oublier que souvent, ça peut arriver qu'il y ait scénariste, dessinateur et coloriste.
Mais en plus, c'est même pas même temps de travail parce que je veux dire, moi, je peux inventer une histoire et en quelques jours, j'ai fait le scénario. Mais toi, tu vas mettre des mois à dessiner tous les petits
bonhommes. Mais après, ça se négocie. Il y a plein de trucs qui se négocient. Mais en fait, tu vois, par exemple, la variable peut être sur l'avance. Donc, je sais pas, le scénariste va recevoir, je dis des trucs nagues comme ça, mais 5 000 euros. Et le dessinateur va en recevoir 15 000, tu vois. Ça peut être fait comme ça. Et après, sur les droits, ils sont à 50-50. Enfin, tu peux aussi négocier qu'il ait moins de droits, etc. Enfin, tu vois, genre, ça...
Donc là, l'idée de, dans le rapport
racine... L'idée, c'est de partir sur du minimum 10%.
Ok.
Et là, ça hurle. Les éditeurs, ils veulent pas. Bah non, parce que ça va être la mort du livre. Alors là, c'est la comédia dell'arte. Oh mon Dieu, vous allez tuer le livre à demander 10%. Mais 10%, c'est quoi sur le prix du livre? C'est aberrant.
On est d'accord que sur un livre vendu à 20 euros, 10%, c'est 2 euros? Ok.
Ça me fait beaucoup rire parce que je vais vous raconter une anecdote que je raconte beaucoup, que je trouve excessivement mignonne et terrible en même temps. J'ai ma mère qui m'appelle. On commence à parler de la daronne. J'ai ma mère qui m'appelle et qui me dit, hey Cyrielle, je viens de voir à la télé. Je sais pas si t'as vu, mais il y a une loi qui est en train de passer. Ils veulent taxer les comptes à plus de 100 000 euros. Pourquoi tu me dis ça? J'ai pas 100 000 euros. Et elle fait, non mais j'ai calculé, parce que vu le nombre d'exemplaires que tu m'as dit, avec à combien ils sont vendus, tu risques d'avoir cette somme. Et je lui fais, mais maman, tu penses que j'ai combien de pourcentage sur le livre? Elle fait, 50%. J'ai fait, non. Donc j'ai dû lui expliquer que j'étais à 8%, voire 10%. Et ma mère, elle était dépitée. Je suis passée de « elle va avoir une Lamborghini » à « il faut lui envoyer un panier repère tout de suite. Elle va finir sous un pont. Donnez-lui des conserves. » C'était vraiment ça. Et je trouve ça mignon et terrible en même temps parce que, effectivement, il y a toute une chaîne du livre. On peut pas demander 50%, mais c'est ce que beaucoup de gens pensent, tu vois. Genre, c'est toi qui l'as écrit. Tu devrais avoir le meilleur pourcentage.
Ok, donc effectivement une mesure sur la rémunération des auteurs et autrices. Alors, tout ceci était très intéressant et merci beaucoup. Je vais conclure par une question importante. À qui je renvoie toutes celles et ceux qui vont avoir, qui sont jeunes auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices, qui vont avoir plein de questions, vont s'intéresser à leur statut, plutôt que dans TDM.
J'en ai déjà beaucoup.
Voilà. À qui est-ce que, vers qui peuvent se tourner tous ces gens, ces artistes pour
alors,
en savoir
plus? Alors, il y a un super syndicat qui s'appelle la Ligue des auteurs professionnels qui s'est fait il y a 2 ans, même peut-être un peu plus, qui est dirigé par Samantha Bailly. La Ligue des auteurs pro, ils font un taf de ouf, de vulgarisation, etc. Suivez-les sur les réseaux sociaux, vous serez les premiers au courant des statuts, etc. Après, je sais pas s'ils vont répondre en DM, mais déjà, en fait, renseignez-vous. Et puis, ça fait peur quand on dit syndicat, mais en fait, parce qu'on a l'impression que c'est vieille lutte ouvrière, machin. Mais alors, déjà, c'est très bien la lutte ouvrière. Et puis mais c'est juste que, en fait, ils sont là pour œuvrer pour nous. Donc voilà, moi, si vous êtes en quête de réponse, suivez la Ligue des auteurs pro.
Merci beaucoup pour tout ça. Avant de passer au questionnaire des impertinentes, est-ce que t'as pas un nouveau projet qui va pas tarder à sortir?
Oui.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Oui. Alors, ma prochaine BD, elle s'appelle Radium Girl. Elle sera éditée chez Glénat. Et elle va sortir le 29 avril prochain. Et j'imagine que je te dis de quoi ça parle.
Mais s'il te plaît, ne fais pas durer le suspense plus longtemps.
En fait, ça parle donc des Radium Girls, qui sont des femmes, en gros, qui ont peint des cadrans de montre, donc les chiffres des cadrans de montre, avec une peinture au radium. Donc, alors, pour t'expliquer un peu, pour te planter le décor... Il faut savoir que, en fait, début du 19e, Marie Curie découvre le radium. Là, les gens pètent un câble, en mettent partout.
Excellent, excellent,
excellente idée, les gars. Même Marie Curie était en mode genre, je suis pas sûre. Et en fait, donc ils ont fait du linge, des vêtements pour bébé au radium, des cosmétiques au radium, de l'eau au radium. Enfin, ils en ont foutu partout.
Mais c'était quoi les propriétés magiques du radium? Enfin,
c'est... Bah, la même que l'or maintenant.
Ah.
T'es genre, c'est en mode genre, c'est un métal précieux.
Ah oui, d'accord.
Et puis bah, en fait, ça va te donner longévité. Et puis le radium irradie de ça. Enfin bref, peu importe. C'était du marketing, tu vois. Et en fait, je pense que c'est comme. Ouais, c'est pour moi, c'est la même chose que l'or. Tu sais, quand ils te vendent des crèmes cosmétiques à l'or.
D'accord.
Tu sais, t'as envie de dire, mais en fait, c'est quoi la propriété de l'or? Enfin, c'est un métal lourd,
ça brille.
Fais pas ça.
Syria, ça brille, ok.
Ça brille. Et bah, tu vois, le radium, ça brillait dans le noir.
Ah oh, putain.
Parce que le radium a une propriété, en plus de tout ce, qu'on a voulu le, tout ce que la pub a voulu lui donner, c'est qu'il brille dans le noir sans besoin d'être chargé à la lumière. C'est-à-dire qu'il est phosphorescent tout le temps. Donc, il y a un petit malin qui s'est dit. Ah, mais on pourrait peut-être faire de la peinture au radium. Donc, en fait, il a développé une peinture qui s'appelle l'Undark pour pouvoir mettre sur des chiffres d'une montre pour pouvoir lire l'heure dans le noir.
Bah, c'est du génie. Prix Nobel.
Prix Nobel, ouais. Sauf qu'elles sont toutes mortes, lol. Donc, en fait.
Toutes les femmes qui ont peint.
Mais en fait, les femmes qui. En fait, les femmes de cette époque. Enfin, faut savoir aussi que c'était pendant un contexte très compliqué. Entre deux guerres, prohibition, enfin c'est très dense, droit de vote des femmes qui arrivent entre temps, machin.
Ok, on est sur les années 20-30.
Et on est sur les années 20-30. Et donc, ouais, ces femmes peignaient ces cadrans au radium selon une technique qui s'appelle le lip pointing. Ça veut dire lip, donc elles lissaient le pinceau entre les lèvres, dip, elles prenaient de la matière, paint, elles peignaient. Et après, relip. Okay. Donc ça veut dire qu'elles ingéraient continuellement du radium. C'était des femmes en plus. En fait, c'était un job de rêve parce qu'elles étaient mieux payées que la norme. C'est comme si elles travaillaient chez
dans le luxe.
Enfin, ouais, c'est comme si elles bossaient chez Dior, quoi, parce qu'elles étaient mieux payées. C'était des ouvrières, quoi. Il faut savoir que le radium valait 1000 fois le prix de l'or à synthétiser. Donc, imagine. Et puis, bah, au fur et à mesure, elles ont commencé à mourir parce que le radium n'est pas très bon pour la santé. Ne faites pas ça chez vous.
Spoiler alerte.
Oui, mais ils le savaient pas. Ils le savaient pas. En fait, il faut savoir que là, en l'occurrence, au début, ils le savaient pas. Il faut savoir que l'évolution du radium, je la pose un peu à l'évolution de la cigarette, sauf que la cigarette, ça a mis 80 ans à comprendre que c'était pas bon. Sauf que le radium, bah, vu que ça tue plus vite, ils ont compris un peu plus vite. Mais comme c'était des femmes, et qu'on s'en battait la race des femmes, et ben, quand elles ont commencé à mourir, ils comprenaient pas trop pourquoi. Et en fait, elles perdaient leurs dents. Puis après, elles perdaient leurs os de mâchoire.
C'était ça, les premiers symptômes?
Ouais.
Perte des dents.
Il faut savoir que le radium assiège les os, irradie de l'intérieur. Donc, à partir du moment où elles ont léché leur premier pinceau, c'était mort. Et en fait, elles ont perdu leurs dents. Et au début, ils ne comprenaient pas pourquoi elles crevaient. Enfin, au début, c'était sporadique. Il y en avait quelques-unes qui commençaient à mourir. C'est les dentistes qui ont donné l'alerte. Et en fait,
tu sais combien de temps il se passe entre les premières ingestions?
Ça peut être entre 2 et 20 ans, voire même 80.
En année, donc.
Ouais, c'est plutôt en année. Enfin, 80 ans, c'est parce que je pense à la dernière Radium Girl, mais qui n'a pas beaucoup fait, mais qui est morte avec plein d'ulcères, etc. Parce que ça crée des tumeurs, etc. Bref. Et en fait, au début, il disait que c'était pas la syphilis. Donc, bon, je ne vais pas tout vous raconter parce qu'il faudra regarder.
Bah, du coup, on lira ton.
On lira ma BD. Bah oui, je suis en train de vous raconter l'intégralité de l'histoire. Mais cette histoire, bon, bref, en gros, tout ce qui m'intéresse. En gros, c'est l'histoire de 6 filles qui vont vivre le meilleur et le pire. Ouais, ce qui m'intéresse, c'est raconter la synergie d'un groupe de potes qui vivent leur meilleure vie jusqu'à ce que ça devienne un enfer.
Mais toi, comment t'as découvert ces histoires?
Je suis tombée sur un article qui est passé sur ma timeline. J'ai cliqué dessus, j'ai lu, il n'y avait pas beaucoup de lignes dessus. Mais j'étais genre, mais ouah, c'est ouf! Personne n'en a entendu parler. Et puis, il faut savoir que, ça, c'est pas un spoiler, mais en gros, leur combat a issu à des lois. Qui ont de protection des travailleurs américains, mais les lois sont restées, mais les femmes, elles ont disparu. Ça veut dire que vraiment, bah, pour trouver des références, c'était un peu compliqué, quoi. Et je me dis, mais c'est dingue cette histoire. En plus, imagine, enfin, c'est du phosphorescent, genre graphiquement, c'est du bonheur, tu vois. Et je me dis, mais c'est pas possible. Donc cherchais, et puis plus je creusais, plus je me disais, mais putain, mais c'est une histoire de dingue. Et donc voilà, jusqu'au...
Donc c'est toi qui as proposé ce sujet,
ouais,
à ton éditeur?
J'ai fait un dossier, ouais. J'ai fait un dossier, et puis en fait, à la base, j'avais pas pour projet d'en faire une BD, puis je parlais avec un BDiste qui s'appelle Guy Delisle, qui est un très grand BDiste. Et je lui ai raconté une autre BD, une histoire que je voulais faire une BD. Puis il me dit « Ah ouais, cool, c'était sur mon grand-père. » Puis après, on part sur autre chose. Et puis je lui raconte cette histoire de Radium Girl. Et je lui dis « Putain, mais c'est dingue et tout. » Et en fait, très souvent, on nous le dit souvent « Bah t'en ferais pas une BD ?» Sauf que de la part de Guy Delisle, quand il m'a dit « Mais t'en ferais pas une BD ?» Je me suis dit « Ah, peut-être bien !»
Du coup, peut-être.
Bah ouais. Parce que bon, quand c'est Guy Delisle qui te le raconte, quand il te dit ça, tu fais « Je pense que je vais méditer là-dessus. » Et ce qui est marrant, c'est que j'ai rencontré mon éditeur qui m'a édité au même endroit, le même jour, limite.
Trop bien.
Il y a eu une conjonction des astres. Donc voilà, je suis tellement pressée. Et cette BD est au crayon couleur, voilà.
Donc Radium Girl, en librairie le 29 avril.
Ouais.
Chez
Glénat.
Chez Glénat. Merci beaucoup Cyrielle.
Bah merci à toi.
Je voudrais qu'on entre un peu dans le questionnaire des impertinentes et qu'on commence par un petit passage sur ton adolescence.
Oh.
Puisque l'adolescence, c'est souvent une période où on se cherche, où on se teste. Alors, je voudrais que tu choisisses un âge parmi les âges de l'adolescence. Tu m'expliques pourquoi tu choisis cet âge-là. Tu te décris, ton style vestimentaire, ton caractère, qu'est-ce que tu écoutais comme musique. Enfin, voilà. Fais-moi le portrait de Cyrielle à quel âge?
Alors, je sais pas, l'adolescence, tu la vois jusqu'à...
Teen years, tu sais, ça va de 13 jusqu'à 19, on va dire.
D'accord.
Ouais, en gros, de 12 à 19, quoi.
De 12 à 19. Attends, j'essaie de chercher.
Et c'est aussi ben, ce que ça représentait pour toi. Oui, hein, oui. C'est...
Alors, en fait, je peux peut-être raconter... Il y a un moment charnière. En gros... En fait, j'ai pas envie de faire pleurer dans les chaumières. Parce qu'il faut pas déconner, j'étais quand même très bien. Bah, en fait, genre vers. J'ai eu un gros âge ingrat, je pense vers 12-13 ans. 12-13 ans, ouais. Où j'étais pas bien dans ma peau. 12-13 ans, t'es en
cinquième, quatrième, je pense.
En fait, bah, c'était un âge un peu ingrat. J'étais pas très bien dans ma peau, comme je pense. 100% des adolescents. j'ai du surpoids. Je ne suis pas très bien dans ma peau. Mon corps change et en même temps, je ne suis pas très bien. Dans le sens, quand je dis que j'ai du surpoids, c'est que je n'ai pas été stigmatisée en tant que... Du moins, je ne l'ai pas ressenti. Comme la petite grosse qui fait chier. Je n'ai pas ça, mais ça m'a créé, moi, en l'occurrence, moi, des soucis de santé qui ont pris de la place. Donc j'ai eu très peu de temps après un corset orthopédique qui a pris beaucoup de place dans ma vie. Et après, j'avais des lunettes, j'avais des bagues, j'avais une coupe au bol. Là, je vous dis, hein, c'était miskine. J'avais un pantalon en velours côtelé moutarde, je m'en souviens très bien. Et un sweat à capuche... Avec, je sais pas si tu te souviens de ces marques-là, c'était des petits personnages habillés en baggy, je sais plus.
Des DDP.
Ouais, ou un truc du genre, ouais. Imagine le pantalon en velours côtelé avec le sweat DDP.
J'imagine d'autant mieux que j'avais moi-même un pantalon en velours côtelé bleu.
Ah, on adore. Je t'assure que le jour où j'en rachète, je me dis... En fait, je suis même pas à l'abri d'en racheter un parce que ça va devenir vintage et je vais faire... c'est joli, ce petit
jolo. J'ai toujours le mien. Je ne rentre pas dedans, bien sûr.
Oui, bon...
Voilà. 12 ans.
Et donc voilà, j'avais ça, j'étais pas très bien, j'avais pas du tout, bon, c'est sans deck, mais j'avais pas du tout le même caractère que maintenant. J'avais l'impression d'être comment dire, je me faisais bouffer littéralement par mes amitiés et je choisissais très mal mes amis, ou j'avais l'impression d'être Ah, tu sais, t'as des gens qui brillent, tu vois, et que quand tu te rapproches, tu te brûles. Et ben voilà, moi je me brûlais, puis je me relevais, je voyais une autre meuf qui brillait, je me brûlais. Donc c'était un peu ça qui continuellement se faisait.
Les mouches dans les films là qui vont sur le néon.
Ouais. Ouais, tout à fait. Je suis celle qui va se cramer la gueule en faisant ah, c'était super. Et ça a duré très longtemps parce que ce genre de cycle, on peut croire qu'on apprend beaucoup, mais en fait non, faut quand même se péter la gueule plusieurs fois. Ça a continué. Je pense que ça a continué jusqu'à mes études supérieures où là j'ai fait bon, j'en ai un peu ras le cul maintenant. Mais voilà. Donc au niveau des amitiés, c'était un peu compliqué. Et puis voilà, et puis sinon je dessinais, j'étais très nulle en piano. Mes parents s'évertuaient à me payer des cours de piano et j'étais nulle à chier. Et ils me disaient, en plus ils ont dû se subir des gammes et des gammes pas possibles, très mal faites. Bref.
À 12-13 ans, comment tu te projetais dans la vie ? Est-ce que tu te disais déjà « Ok, il va falloir que je trouve un travail, que je gagne ma vie » ou c'était très très loin et tu avais des rêves totalement différents ?
Eh bah, ben c'est marrant parce que moi j'ai toujours eu la peur de manquer d'argent quand j'étais petite. Maintenant, je suis beaucoup plus détendue parce que j'ai la main sur mes finances, mais j'avais toujours peur que mes parents manquent d'argent. Et en plus, moi, j'ai vécu dans un environnement ultra privilégié. Hein. J'ai jamais manqué de rien. Mes parents sont même plutôt aisés, vraiment. Donc, mes parents même, ils comprenaient pas parce qu'à chaque fois qu'ils voulaient m'acheter un truc, je disais non, vous allez plus avoir de sous. Ils me disaient mais on lui a fait, mais est-ce qu'on lui a fait croire un truc comme quand on n'avait pas assez d'argent
C'est
quoi
un Kinder surprise.
Mais oui, c'est envie de dire calme-toi. Et je sais pas, j'avais ce peur de ce manque constant, etc. Et puis bah après aussi, c'est marrant parce que je lisais beaucoup de BD et tout, mais au début je me disais que j'aimais bien faire de la BD, mais bon, c'était un peu au loin. Moi, le travail que j'ai voulu faire tout de suite, c'était restauratrice d'œuvres d'art.
Ah
c'était...
ouais,
ouais. C'est, genre, je le dis souvent, j'avais vu une pub pour des Raffaello où t'as une meuf qui restaure un ange. Et j'avais dit à mon père, je veux faire ça. Et il m'avait dit, manger des Raffaello. Et j'ai fait, non, la meuf, elle fait un truc, là, c'est quoi son métier elle... Ah, restauratrice d'œuvres d'art, voilà. Non, j'aurais pu manger des Raffaello, mais non, j'aime pas ça, c'est dégueulasse. Mais voilà.
Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de l'ado que t'étais à cette époque ? Quel regard tu portes sur elle ?
Bah, t'as toujours un regard un peu attendri. Je pense que si je me regarde... En fait, tous les ados me procurent la même sensation, c'est ce malaise. Tu sais, par empathie, tu fais... Oh, tu vis une sombre période, mais t'inquiète, ça va se passer. Mais vraiment, je pense que j'aurais même cette boule de malaise où tu sais pas trop quoi faire de ton corps, il est trop grand pour toi, et en même temps, t'as des jetards, et en même temps, t'as les hormones qui t'explosent pour certains ou certaines. Moi, j'avais envie de niquer la terre entière, mais vu que... Excuse-moi. Au bout d'un moment, faut être honnête. Mais clairement, c'est pas tout de suite.
C'était pas au top de ton sex appeal à l'époque.
Non. Bah, c'était pas tout de suite, de toute façon. Hein. Voilà, tu as les hormones qui
ont un peu se d'avance.
Mettent en truc avant l'âge légal. Donc bon, pour moi en l'occurrence, c'est ce qui me concernait et tout. Et puis bah en fait, je me regardais en disant, écoute, tu vas prendre des trucs pas cool dans la tronche. Mais ça va faire de toi quelqu'un, je pense, de pas trop mal plus tard. Donc serre les dents, avance. Puis bah tu vas aussi beaucoup pleurer en pensant que t'arriveras pas à faire ce que t'aimes dans la vie. Et en fait t'y arrives. Donc c'est cool.
Et elle, cette adolescente, si elle te voyait aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle penserait de toi ?
Elle dirait, mais pourquoi tu t'es décoloré les cheveux en blanc ? Pourquoi tu fais ça ? Hey, Miskin, le gars à côté de toi, il est pas mal. Hein. Hey, la baraque, ouais, c'est cool. Mais pourquoi tu reportes des pantalons velours côtelés ?
J'aimerais trop pouvoir filmer cette rencontre.
Non, mais je pense que je serais plutôt en mode genre, ah tu mais surtout aussi genre, ah tu dessines comme ça ? Pourquoi tu utilises des crayons de couleur, t'aimais pas ça ? C'est vraiment, je pense qu'il y aurait vraiment un truc d'incompréhension et moi j'arrêterais pas de faire chut. Je te tais. Et tu vas manger des brocolis. Tu vas aimer ça en plus.
T'as changé, Cyrielle. T'as changé depuis tes 12 ans.
Oh là oui. Et heureusement.
Alors, je te propose qu'on passe à la troisième partie de l'interview, où c'est un choix.
Ouais.
Parce que je vais te proposer soit de parler de ta zone de confort, comme si c'était une pièce dans ta maison, ouais. Et tu me l'as fait visiter, hein, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, à la fois des meubles physiques et des choses immatérielles, comme des principes de vie, des souvenirs, des leçons, des choses comme ça, ok ? Soit on fait le film de ta vie. Et du coup, si ta vie était un film, quelle serait sa bande originale, l'élément problématique, le méchant de l'histoire, enfin ce genre de choses.
Je préfère la pièce.
Ok.
C'est plus simple.
Alors, si ta zone de confort était une pièce dans ta maison, qu'est-ce que je trouverais à l'intérieur ?
Déjà, on trouverait mon partenaire de vie, étonnamment. Fait partie de ma zone de confort, où on se connaît depuis des années, et qui est un énorme support dans ma vie. Il y aurait aussi tout ce que j'ai déjà fait. Ça veut dire que, en fait, c'est...
Une sacrée bibliothèque, alors ?
Non. Stop it, you. Non, mais en fait, c'est marrant parce que c'est très mal vu, par exemple, d'être bonne cliente de soi-même. Moi, je suis bonne cliente. Il y a des moments où je me marche en autarcie de l'humour. Je suis genre, pff, je suis vraiment trop drôle. Non, mais en fait, il y a un truc comme ça parce que, en fait, je regarde, ça m'arrive très souvent, pas tous les 4 matins, mais de refeuilleter mes BD, tu vois. Mais ça me permet de garder ce que je trouve encore cool pour pouvoir le réutiliser et enlever ce que je trouve bancal, tu vois. Et ok, si tu restes que dans cette idée-là de refaire, d'être en autarcie, au bout d'un moment, ça va se tarir. Mais si tu le mélanges avec un peu de nouveauté, ça peut faire que de quelque chose de mieux. Tu vois, ça m'arrive souvent de re-regarder mes vidéos d'avant et je me dis, ah mais ça, c'était cool, là, tu faisais plus attention, comment tu faisais ton montage, tu faisais plus attention quand tu faisais ça. Ah non, ça c'est pas drôle, non, c'est pas drôle, c'est gênant ça. Ne refais pas ça. Et bah tu vois, genre ça, c'est ma zone de confort où... je verrais ça un peu comme une espèce de machine avec une poubelle gardée, une poubelle achetée, tu vois. Tu vois, genre ce genre de choses-là, qu'est-ce que j'aurais d'autre ? Mon empathie est une bonne zone de confort, tu vois, donc j'imaginerais, je sais pas, un espèce de truc qui a une bonne tête. Et en fait, je trouve que ça me conforte pas mal, tu vois, ce genre de choses. Il y a aussi, dans les zones de confort, ma manière... En fait, j'ai des... Comment dire, je pense, quand un musicien, il veut s'entraîner sur un instrument, il va automatiquement jouer un morceau qu'il aime le plus, qu'il fait tout le temps, constamment, un peu comme les gammes, tu vois. Et ben en fait, en dessin, on a ça aussi. Ça veut dire que j'ai des visages qui reviennent. Ça veut dire que quand je suis au téléphone, et ben je vais dessiner des visages, etc. et tout. Ça, c'est ma zone de confort de dessin, tu vois, par exemple. C'est le truc que ton cerveau, il se détend, tu réfléchis pas, tu le fais. Donc je pense qu'il y aurait un endroit avec que ça. Et si tu verrais que tu fais des milliers de dupes.
Est-ce qu'il y aurait des couleurs en particulier dans cette zone de confort, dans cette pièce ?
Je pense qu'il y aurait du jaune. t'as vu mes radiateurs ?
Tu as peint tes radiateurs en jaune, c'est toi qui aimes ça ? C'est trop beau.
Dans mon atelier, la couleur dominante, c'est le jaune au fond. En fait, genre, c'est marrant parce que le jaune... c'est une couleur que je détestais quand j'étais jeune parce que ma mère disait tout le temps « le jaune te va au teint » et elle voulait m'habiller en jaune. Et je me souviendrai toute ma vie de cette combinaison intégrale pour le ski jaune canari où genre on voyait un poussin se vautrer la gueule parce que j'étais très nulle aussi. Mais genre à des kilomètres et c'était pour que... Je pense qu'à mon avis, elle me l'a mis juste pour que mon daron puisse me spotter quand je descendais, genre avec le caméscope. Elle s'est dit « elle est là ».
Le traumatisme du jaune.
Et tu vois, genre, en fait, j'ai détesté le jaune pendant des années parce que, en plus, j'ai la peau très pâle et elle me disait non, mais ça te va bien au teint, machin et tout. En fait, quand j'ai compris que le jaune en vêtements bof, mais par contre, pour autre chose, enfin, je trouve que c'est une couleur hyper lumineuse, irradiante et qui, moi, me. Tu vois, genre, je te montrerai là-haut, mais tu vois, genre, j'ai du jaune partout.
Mais c'est ton fond dans certaines vidéos, mais non oui. Parce que j'ai déjà vu du... Je t'ai déjà
c'est
vu
mon fond
sur ton
dans
fond
mes
jaune,
vidéos,
là.
Tu vois, genre, dans mes strips, les dominantes, c'est jaune. En fait, souvent, la seule couleur, c'est le jaune. Et c'est devenu un espèce de gimmick comme ça qui revient. J'ai des camailleux, par exemple. J'ai des camailleux fétiches, tu vois, genre le violet couplé au jaune, voire du vert.
Pardon, c'est quoi camailleux ?
Ah,
un camailleux, c'est des vêtements.
Bah justement, ils ont tout pris. Et en fait, un camailleux de couleurs, c'est un choix réduit de couleurs qui vont bien ensemble, tu vois. Donc souvent, c'est plus simple de se choisir un camailleux de couleurs, ça te permet d'éviter des fautes de goût. Quand tu mets trop de couleurs, c'est très dur à harmoniser. Donc voilà, moi, souvent, par exemple, pour ma prochaine BD, c'est un camailleux de violet, tu vois, avec une couleur qui ressort, qui est un espèce de vert menthe irradiant, tu vois. Mais voilà, en fait, pour moi, voilà, tu vois, dans cette zone de confort, ouais, il y aurait aussi ces couleurs-là qui sont un peu mes trucs refuge et c'est un peu dur d'en sortir souvent. Tu vois, genre, je passe mon temps à essayer de chercher de nouvelles gammes parce que, mais irrésistiblement, je me retrouve à refaire parce que je sais que c'est un truc qui marche bien, quoi.
Est-ce qu'il y aurait des grandes leçons que tu as apprises, des petites phrases, des choses qui t'ont marqué ?
Alors, il y a une phrase qui était très cool. Alors attends, est-ce qu'il y en a plusieurs ? Il y avait une phrase sortie de son contexte complètement, qui n'a pas tellement d'intérêt, mais je l'ai lue sur un podcast de Eleanor Bridge, qui elle-même était une leçon qu'elle avait tirée d'une autre meuf, donc autant te dire la déperdition d'informations, peut-être que c'est pas du tout ça qu'elle avait dit à la base, la meuf.
Passez-vous les leçons.
Voilà, en fait elle disait, si tu veux qu'on se souvienne de toi, aie un look inoubliable. Et ça n'a aucun rapport, mais en l'occurrence, depuis que je me suis teint les cheveux, en blanc, je sens que ma confiance en moi, donc ça fait un bon bout de temps, ma confiance en moi a été boostée, parce qu'en plus, on te repère direct, et puis, il y a un truc de genre... je sais pas, il y a vraiment l'apparence est importante sur ce truc-là, tu vois, genre... D'ailleurs, je tends potentiellement à me repartir sur ma couleur naturelle, et j'en chie. Parce que je sais que c'est une zone de confort, mes cheveux. Parce que je sais que je suis... C'est, on me repère comme ça, ça veut dire perdre une identité, tu vois, c'est compliqué.
Et puis, bah, totalement, parce que bah ouais. Moi je me souviens, quand on a commencé à travailler ensemble, t'avais pas les cheveux blancs.
J'avais un carré, en
et plus. T'avais pas les cheveux si courts, je non. Ne me souviens pas de toi avec les cheveux plus longs.
Ouais, bah, j'avais un carré, il y avait... Je pense qu'il y avait... il y a une vidéo qui existe encore. Oh, miskine. Allez pas chercher. Mais vraiment, bah, ouais. C'est marrant parce que dans cette vidéo-là, vraiment, il y a une bascule. Il y a la Cyrielle d'avant et la Cyrielle d'après, tu vois. Genre, même je sens, tu vois, genre... ça m'a permis de bomber le torse, d'assumer, tu vois, genre... Tu vois, j'ai aussi assumé de l'avoir... voilà, dans cette pièce, il y aurait aussi un panier avec mon ego. Tu vois, parce que mon ego, je me suis... J'en ai un. Et j'aime pas qu'on marche dessus. Oh,
ça fait oui, c'est légitime.
Non, mais tu vois, genre, l'ego pour les femmes, c'est presque une insulte, quoi. Tu sais, quand tu dis, hey, mais oui, je sais ce que je vaux. Et les gens sont genre, ah bah super, c'est ce qu'elle veut. Bah dis donc, ça va le
boulot. Le melon. Ouais. Non, l'ego.
Et bah voilà. C'est ça. Et effectivement, un trop plein d'ego peut être compliqué, mais avoir un ego juste ce qu'il faut, c'est très bien. Tu vois, enfin, et puis il faut l'assumer. Et donc voilà. Et puis aussi, il y a une autre phrase, c'était genre, je le dis souvent en dédicace à des gens qui me disent j'ai pas de diplôme qui dit qu'en gros je suis bédéiste ou illustratrice machin. Je fais mais alors déjà des diplômes qui disent qu'il te fait de la BD, il y a pas beaucoup d'écoles et bon bref peu importe. Mais je lui ai dit c'est en fait personne ne te décernera la médaille et personne te dira bon allez hop ça y est t'es scénariste. Bah non c'est si toi tu te présentes en tant que scénariste, les gens partent du principe que t'es scénariste. C'est tout. Je l'ai entendu de plusieurs personnes différentes, mais je me souviens plus lesquelles. Mais parce que ça vient pas de moi. Mais et en fait, c'est vraiment quand on s'établit comme tel, et ben tu es. Enfin, les gens vont pas se poser de questions si tu commences à dire ouais, je fais un peu de dessin de temps en ouais, j'ai publié une fois un truc, mais bon, à côté de ça. Enfin, non, t'es autrice de BD et point barre. Et personne ne remettra en question le fait que t'es autrice de BD, quoi.
Ou ceux qui remettent ça en question. Peut-être que fondamentalement, t'as pas besoin
c'est de... C'est des tocards, oublie-les. Peut-être qu'on s'en fout de ce qu'il raconte.
Merci pour cette visite de ta zone de confort.
Oui.
Je te propose qu'on enchaîne sur la quatrième partie, qui s'intéresse un peu plus aux obstacles. Parce ouais. Que donc, pour te refaire un peu d'historique, mais en fait, Les Impertinentes, ça s'inscrit dans une semaine de programme qui s'appelle Tuto Conquérir le Monde. Et le but, c'est de partir à la conquête du monde.
Du monde, ouais.
Je voudrais juste qu'on n'oublie pas que parfois, c'est compliqué et qu'on n'est pas à égalité sur la ligne de départ.
C'est clair.
Et que pour certaines d'entre nous, il faut parfois lever les genoux un peu plus haut, transpirer un peu plus pour réussir à aller au même point. Et je me demande si, toi, il y a une épreuve qui t'a particulièrement marqué dans la vie. Est-ce que tu peux en parler et... Pourquoi ça t'a marqué particulièrement ?
Alors déjà, je pense qu'il faut faire un petit check. C'est qu'effectivement, j'ai eu des obstacles. Mais je pense que j'ai eu... Effectivement, en tant que femme, on a besoin de lever les genoux plus haut. Mais moi, en l'occurrence, j'ai aussi bénéficié du fait que je sois blanche et que je sois dans une famille aisée. Je pense que c'est important. Et qui ne m'a jamais mis des bâtons dans les roues parce que je veux faire de la bande dessinée. Donc je pense que c'est un bon step que genre j'avais moins de centimètres à lever de genoux... que les autres. Après, je me souviens ça me marque, genre j'étais en études et je me souviens d'une nuit où je me suis réveillée, je me suis posée dans mon lit et je me suis mise à chialer en disant jamais j'y arriverai. Jamais j'y arriverai. Parce que je commençais à mettre le nez dans les trucs administratifs, je commençais à me dire mais de toute façon, puis en plus j'avais eu des soucis parce qu'à l'école, ils me disaient que ce que je faisais... On me disait que les strips que je faisais ne marcheraient jamais. Que mon trait strip ne marcherait jamais et que personne ne serait intéressé par ça. C'est con. Hein, parce que excusez-moi jusqu'à preuve du contraire. Mais bon, ça m'a permis de développer un autre trait. Mais sur le moment, c'est horrible parce que tu te butes. Tu te prends le mur en fait en te disant « Ah bah super, je suis même pas encore sortie de l'école que je suis déjà obsolète. » Donc ça, je me souviens de ça. Et après... J'ai eu des galères de freelance, des galères de trucs de con où t'acceptes des tafs et que tu t'en sors pas, tu vois, tu t'en sors pas vraiment. Bon bah ça on l'a tous vécu, ou quand tu sous-devises et que tu tu te dis putain ça me coûte à moi de travailler. Mais j'ai pas eu des j'ai vécu un épisode, c'était avant avant qu'on se rencontre. C'était mon précédent taf où ça se passait très mal, mais vraiment très mal. Et je me disais, c'était même pas envisageable de penser au freelance, hein, parce que genre moi je me disais, je peux pas me lancer en freelance quoi qu'il arrive.
C'était quoi à ce moment-là ton travail ?
J'étais graphiste dans une entreprise qui vendait du vin en ligne. Mais en fait, il y avait pas que ça, c'était bizarre. C'était...
Mais tu faisais du graphisme.
Oui, oui, c'était, je détourais des bouteilles de vin, tu vois.
Moi je sais, non je sais pas détourer.
Comment ça, tu sais utiliser l'outil plume et sans faire des trucs hexagonaux, bref.
C'est Esther qui détourne les gens pour les mettre sur les miniatures. Elle m'a pas encore montré.
Ok.
Revenons à toi qui détourne les bouteilles de vin.
En fait, ça se passait très très mal et en gros, on me faisait miroiter des trucs. Enfin, on me parlait super mal. C'était terrible parce que j'avais l'impression que d'être un cheval, on me fouettait le cul et on me donnait de l'avoine après, tu vois, c'était horrible parce qu'on me faisait du chantage. J'étais très jeune, c'était ma toute première expérience.
T'avais quel âge environ ?
Ah, je devais avoir 22 ans. Enfin, pour moi, c'est très jeune. Enfin, après, il y en a qui disent que c'est 18 ans, mais moi, 22 ans, quand tu sors avec t'es toute fraîche de l'école, tu te berces d'illusions et que la désillusion arrive très vite. Et en fait, j'étais en mi-temps. Mais rien qu'en mi-temps, ça me bouffait, en fait, complètement. Et je me rendais compte que la journée... En fait, je bossais jusqu'à 14h. Après, je rentrais chez moi et je me couchais et je dormais. Et je dormais continuellement. Mon mec revenait, on mangeait, je redormais. J'allais au travail, j'arrivais, je redormais. En fait, je dormais continuellement. Et en fait, j'ai capté qu'après, que potentiellement, il y avait un truc qui se tramait pas terrible. Mais en fait, c'est juste que c'était un travail de merde qui était inintéressant, avec des gens qui étaient méchants, qui étaient... c'était vraiment, j'étais pas bien. Et puis après, j'ai quitté et je suis partie après à Mademoiselle.
Comment ça s'est passé, cette sortie ? Est-ce que... À quel moment t'as pris conscience, en fait, que t'étais... C'était pas juste une mauvaise expérience, t'étais vraiment affectée par ce qui se passait ?
Je pense que j'ai pas tellement pris conscience, parce que, en fait, ma porte de sortie, c'est parce qu'on m'a proposé un travail. Tu sais, on m'a proposé un travail... c'était Mademoiselle, en fait. Donc, en fait, ma porte de sortie, c'est que je me suis dit... « Ah, il y a quelqu'un d'autre qui me propose du travail, ça me plaît pas trop. » Ils étaient en train d'essayer de me proposer un CDI, genre l'entreprise dans laquelle j'allais pas bien. Je me suis dit « Est-ce que j'ai vraiment envie de rester toute ma vie dans un CDI où manifestement je me fais chier ?» C'était même pas genre « Ils sont méchants, tu vois. » Je me disais « Oh, je m'ennuie un peu. » Non, je m'ennuyais pas un peu. J'avais envie de crever tellement c'était nul à chier.
Mais dans ces conditions, t'arrivais pas à dégager du temps ou même de l'énergie pour faire une recherche d'emploi ?
Non. Ah non, 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 non. Et c'est pour ça qu'en l'occurrence, on est venu me voir en me disant, enfin, Fab est venu me voir en me disant, il y a un poste. Donc, j'ai fait OK. Et puis, je suis partie.
Sur la base d'une couverture que tu avais faite pour la page Facebook.
Ouais, j'avais fait une couverture. Je me souviens,
il y avait un topic sur le forum qui disait vous voulez faire la coiffe de la couverture de la page Facebook.
Bah, au tout début, c'était pas uniquement. À la base, c'était pour faire des strips, tu vois. Puis très vite, genre, je pense. Deux ou trois semaines après, il me proposait le poste de graphiste, tu vois. Donc, ça a été très vite. Donc, j'ai dit ciao, bon dimanche au bolos. Et puis, j'ai intégré Mademoiselle. Mais ça a été formateur, mais... Peut-être... Ça a été formateur, mais... Enfin, j'ai su, à partir de ce moment-là, de ce que je voulais plus faire au niveau... graphique, par exemple, c'est hors de question que je me fasse chier.
Je pense que ce que tu as traversé dans ta première entreprise, c'est quelque chose que malheureusement beaucoup de gens traversent, et beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'expérience professionnelle et donc pas les moyens de comparer ce que c'est qu'un environnement toxique par rapport à un environnement sain. Quel est le conseil, ou quels sont les conseils que tu aurais voulu recevoir, que tu aurais été capable d'entendre aussi donc en gros, ce que je te demande là, c'est que peut-être on prenne un moment, toi et moi, là, à ce moment-là, pour venir conseiller la Cyrielle de cette époque, en espérant que celles et ceux qui nous écoutent et qui peut-être se reconnaîtraient dans cette description peu jouasse puissent en profiter pour prendre du recul sur leur situation.
Je pense que le premier conseil qu'on peut faire, même qui peut être même apposable au freelance, en fait, comment gérer son client. Ce n'est pas ton ami. il n'y a pas d'affect qui doit rentrer là-dedans. En fait, tout ce qui l'intéresse, la personne en face de toi, c'est que tu fasses bien ton taf et que la personne en face te manage bien. Point barre. C'est, en fait, à partir du moment où il y a de l'affect qui rentre en jeu, que ça soit genre... Parce que moi, par exemple, sur mon premier taf, on m'a fait rentrer de la culpabilité. Genre... aussi de la carotte, tu sais, genre ah tu veux pas faire ça, ça risque de peut-être mettre en question ton avenir dans la boîte, tu sais, des choses comme ça, tu sais, des trucs sous-jacents. Alors ça, c'est mort pourquoi ça m'est arrivé aussi d'avoir des relations patron-pote, pas bon du tout, parce que quand on te dit, en fait quand c'est juste ton patron qui te dit t'as merdé, c'est... En fait, vu que c'est ton patron, t'as merdé sur ton taf. Quand c'est ton patron pote qui te dit t'as merdé, c'est tu as merdé sur ton taf et tu as merdé en tant qu'humain. En fait, c'est la personne que tu es entière qui a merdé. Donc en fait, non. Et en tant que freelance, par exemple, quand t'as un client en face de toi, t'as envie d'être gentil avec eux, t'as envie d'être conciliant, etc. Sauf que moins tu sers la bride, plus le cheval il part au galop, hein. Donc ils en ont rien à foutre, hein. Eux ils sont sur l'autoroute de te tirer le plus possible, donc pas d'affect, jamais.
Oui, ce que tu veux dire, c'est qu'on peut très bien être très professionnel, ouais, sans forcément avoir besoin d'être sur-impliqué dans une... Exactement. Relation. En fait, c'est pas être méchant, non, que être rigoureux et faire ce qu'on te demande sans en plus faire des révérences et sans... Exactement. En plus se couper en quatre pour...
Exactement. Genre, pas d'affect ne veut pas dire pas de politesse.
Oui, c'est ça. Ça veut dire que
Tu peux être... Moi, je fais des vannes avec mes clients, on se marre, mais en fait, je rentre pas plus loin. Je veux pas savoir s'il a des gamins, je veux pas savoir machin, parce que
tu vas pas boire un verre avec lui.
Je vais pas boire un verre avec mon client, ou si je vais boire un verre avec lui, c'est que j'ai plus de taf avec lui, en fait, en l'occurrence on bosse plus ensemble. Donc voilà, après je sais que c'est très compliqué à mettre en place.
C'est une vraie distinction entre ce qui relève de la sphère professionnelle et de relations professionnelles. Exact. Est-ce qu'il y a la sphère privée ? Alors moi je rajouterais là-dessus que, enfin, je suis d'accord avec toi. Et c'est aussi une question d'expérience, c'est-à-dire moi je pense pas que ce soit complètement impossible de devenir pote avec des collègues, bien sûr, non, avec un patron. Je pense que c'est possible d'être pote avec ton patron, mais je pense que si c'est ta première expérience professionnelle et que t'as jamais mis en place ce type de relation et que t'as jamais expérimenté cette distance professionnelle, devenir pote avec ton patron comme ça, t'es pas en train du coup de te faire cette expérience. Tout ce que tu dis sur j'étais trop gentille ou j'étais trop impliquée et puis on me manipulait vis-à-vis de ça, à partir du moment où tu sens que ça t'affecte, c'est trop tard, t'arrives plus à démêler les choses, et en même temps je t'en veux pas d'être dans cette situation parce que tu sais pas faire autrement.
Oui, c'est clair.
Donc je pense qu'un vrai conseil par rapport à tout ce que tu viens de dire, c'est que surtout si c'est votre première expérience, mettez cette distance.
Ouais.
C'est pas grave de se faire reprocher d'être trop froid ou trop distant, ou ça, c'est pas grave en fait. Parce que au moins vous êtes en sécurité, vous êtes protégé, et petit à petit, cette distance, si elle te pèse, exactement, si tu veux la réduire, t'apprends à la réduire, c'est plus facile dans ce sens-là que dans l'autre.
C'est clair, souvent c'est ce que je dis, c'est en fait, par exemple, quand t'as une relation avec un client, moi je sais que j'établis les bases, c'est-à-dire que je suis très rigide au début, par exemple. Pour simple, je travaille dans les premiers mails, c'est je ne travaille pas sans contrat, voici mon devis à co-signer, à signer, etc. Je ne travaille pas sans avance, donc blam, tu mets, en fait, t'ériges le cadre.
La meuf va être payée pour son travail, sans quelle audace.
Je vais être payée avec un contrat, avec une obligation qui me paye aussi les 70% après. Et après, en fait, c'est quand t'as la bride qui est tenue, après tu relâches doucement. Et c'est après, c'est une fois que le cadre il est mis, que tu peux relâcher un petit peu la bride.
Pot de fin de contrat, pot de fin de collaboration, on a fini de bosser ensemble, là on peut boire un verre.
Ah oui, tu peux te murger la gueule, rien à foutre. Ah oui, essayez de... Ouais.
Avec modération.
Ouais, voilà.
Ok, mais je comprends, ouais. Est-ce qu'il y a un autre conseil ou une autre leçon que tu tires de cette expérience et que tu aurais voulu qu'on te donne ? Ou au contraire, je pose aussi la question dans ce sens-là, est-ce qu'il y a un conseil dont tu aurais vraiment pu te passer et que tu n'as plus envie de voir transmettre à celles et ceux qui suivent. Par exemple, tu sais, moi, on m'a beaucoup dit « Non, mais prends sur toi, c'est ça le monde du travail. » En fait, moi, je savais ce que je vivais, j'étais dans une certaine situation, et je parlais de ma toute première expérience professionnelle, encore une fois, où, quand j'ai commencé à appeler un peu à l'aide en disant « Je crois que c'est pas normal la façon dont je suis traitée », et qu'on m'a répondu, des adultes m'ont répondu, en qui j'avais confiance, « C'est le monde du travail, c'est comme ça. » En l'occurrence, ouais. Il ne savait pas ce qui se passait.
Eh bah, oui, non, c'est clair. Il y a aussi eu le fameux travailler gratuit. Alors ça, bon, bah, j'en parle souvent du fait de... Globalement, les gens veulent que tu bosses gratuit parce que tu fais des dessins et que bah, ça te prend 2 secondes, quoi. Ça te prend 2 secondes de faire un petit dessin.
Puis c'est une passion.
Ah bah c'est une passion. Le travail passion est compliqué à gérer parce que t'as envie de dire, bah écoute... Non. Non, mais c'est surtout que, en fait, genre, souvent les gens, genre, là encore, c'est une citation que je ne peux rassembler, je ne peux pas la raccrocher à quelqu'un parce que je ne me souviens jamais. Mais en gros, c'était genre, bah oui, ça m'a pris 5 minutes de faire ce dessin, mais vu que ça fait, j'ai quel âge ? J'ai 30 ans, bah ça fait 30 ans et 5 minutes. Que, voilà. Donc tu dois payer pour 30 ans et 5
que
minutes.
Que je dessine, ok.
Bah ouais, parce que c'est un lent apprentissage avec beaucoup de ratés. Énormément de ratés pour très peu de réussites. Mais les réussites sont tellement cool. Mais donc voilà. Et oui, le côté du travail gratuit, ça c'est fou quand on y repense. Parce que, ah oui, si, et aussi en fait, donc il y a le travail gratuit, genre des marques qui viennent te proposer des partenariats et en échange tu fais du contenu qui vaut genre 10 fois la valeur marchande de ce qu'ils t'ont envoyé, genre des fossiles de merde à 25$ et qui te les envoie et qui dit ouais, vous nous ferez une vidéo, ma vidéo vaut plus que 10 fois 25$, mais alors vraiment
je mettrai un lien vers cette vidéo car j'ai beaucoup ri.
Elle a été appréciée. Moi, ça m'a fait beaucoup rire de la faire. Après, il y a des gens qui... Il y a des gens qui commencent à m'envoyer... Souvent, j'épingle ça sur mes stories. Et là, on était venus me voir pour des culottes gainantes. Et tout le monde était en mode genre « Oh oui, va peindre avec des culottes gainantes !» Et j'étais genre « Non, 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 c'est bon, une seule fois, ça suffit !» Ça suffit, machin. Mais par contre, il y a aussi un autre truc qui pourrait être intéressant de parler. Donc, effectivement, les marques qui viennent de proposer du travail gratuit, non, c'est aberrant, c'est stupide, voilà, bref. Mais par exemple, j'en ai parlé assez récemment, c'est le gratuit dans le militantisme. C'est compliqué. Parce que les plus grosses prises de bec que je me suis prises récemment, c'est des associations. Alors là, en l'occurrence, c'était un service civique. Donc c'était des gens qui étaient payés, en fait, pour faire ce genre de choses, qui venaient me demander de faire des portraits gratuitement pour mettre en lumière des femmes qui ont été invisibilisées par l'histoire. Je dis, mais en fait, vous êtes en train de précariser des autrices actuelles pour mettre en avant des femmes qui ont été invisibilisées et sûrement et certainement précarisées à l'époque. Il y a un problème de
Oui, parce qu'on parlait
logique.
Au début de cet entretien de la situation royale des artistes-auteurs qui s'en mettent plein les fouilles avec leurs 8%.
Waouh. Je vous ai pas dit, dans ma pièce de zone de confort, il y a une piscine de billets. Voilà. Et donc voilà, et en fait elle me...
L'argent du féminisme, c'est là qu'il est.
Tout la YouTube money. c'est clair, et en fait justement l'argent du féminisme. En fait, quand j'ai envoyé chier royalement cette personne en disant écoute, là c'est pas
alors
possible.
Tu dis envoyer chier royalement, mais en fait t'as partagé sur les réseaux sociaux un message type
ça
que tu
répondu.
Fais à ce type
cordial,
de demande qui est très cordial et qui justement explique ce que tu viens de dire, à savoir bah, je vois pas en quoi travailler gratuitement et donc bah, précariser ma propre situation aide globalement la cause féministe.
C'est ça. Et en fait, bon, j'ai envoyé chier royalement dans un second temps quand la personne est venue m'insulter en DM Instagram. Voilà. Ça, je l'ai pas. J'ai été sympa parce que j'ai pas screené parce que c'était scandaleux. Vraiment. Genre, c'est ton problème si tu te fais de l'argent avec la lutte. Genre, en gros, en fait, t'es une capitaliste de merde. Enfin bref, c'était un plaisir. Donc. C'était complètement dingue, mais c'est en fait, genre là, c'est un cas extrême, mais j'en ai eu beaucoup, beaucoup des festivals, par exemple, très indépendants. Je sais qu'ils n'ont pas beaucoup de thunes, je le sais, en fait, mais qui viennent me demander de faire des ateliers, des conférences, des machins et tout, sauf que moi, je vais venir pendant 2 jours, je ne vais pas être payée, je vais être bénévole, mais est-ce que je ne suis pas bénévole pour cette association ? Et puis au final, le lieu, vous le louez parce qu'ils ne vous le donnent pas, tu vois. Donc c'est après, genre, vous demandez à 85 auteurs de venir, mais en fait, si vous pouvez en payer que 30, et bah, prenez-en que 30. Mais tu vois, genre, il y a aussi ce truc-là qui est très compliqué. Et puis, il y a des moments où j'ai envie de dessiner gratuitement, mais c'est parce que ça vient de mon propre chef. J'ai déjà proposé de faire des dessins gratuitement pour des assos parce que ça me touchait, parce que c'était important et que ça venait de moi. Le bénévolat vient de soi.
Est-ce que c'est un passage obligé pour des artistes, je pense notamment graphistes, illustrateurs, illustratrices qui veulent se lancer, est-ce que c'est un passage obligé de dessiner gratuitement pour se faire connaître, pour se faire une plume, une notoriété et espérer être payé par la suite ?
Bah, on dessine déjà tous gratuitement en ayant un Instagram. Moi, du contenu gratuit, j'en produis depuis des années. J'ai une chaîne YouTube, je fais des stories de vulgarisation, je fais des dessins, j'ai fait des strips, j'ai tenu un blog. Alors, je pense que j'ai fait mon quota de travail gratuit pendant un bon bout de temps, mais c'est parce que, en l'occurrence, il ne servait pas à quelqu'un. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc quand une marque ou même une association utilise ton dessin pour valoriser quelque chose d'autre, et ben voilà, c'est con. Enfin, moi, tu vois, si cet asso là qui venait me voir, si j'avais fait ah bah grave, je peux vous faire une illustration si vous voulez. Ça vient de moi, il y a pas de souci. Mais là, en plus, souvent il y a des clauses quoi. Il y a des clauses, ah bah faudrait faire 10 portraits pour faire ça, machin, et puis ça serait bien, et puis c'est le féminisme qui te remercie.
Avec une deadline, ouais. Avec des allers-retours, parce qu'on n'est pas trop, est-ce que tu peux...
Mais est-ce que tu peux changer le fond ? En fait, on n'aime pas trop, ça ne te dérange pas, j'espère. Mais c'est très compliqué, j'avais fait des tweets là-dessus, en disant, mais c'est... Enfin, il faut qu'il y ait une logique, là, dans ce que vous voulez faire. Effectivement, bah, parfois, vous n'avez pas les thunes pour pouvoir payer. Moi, en fait, il y a une différence entre pas payer et avoir un petit budget. Jamais j'irai fustiger une asso qui arrive et qui me dit « Bonjour, on a ce budget, est-ce que tu peux nous faire quelque chose pour ce budget ?» Bah, moi, je vais leur dire oui ou non. Si leur asso, elle est hyper intéressante et que j'ai envie de les aider, je vais leur dire « Ok, pour ce petit budget, je vais le faire. » Sinon, je leur dirai juste « Bah non. » Mais jamais je vais leur dire vous foutez de ma gueule, à part s'ils viennent avec 2 euros. Hein. Là,
vous m'insultez. Mode genre,
là, vous foutez de la gueule de qui ? Mais en l'occurrence, c'est jamais ça. Et en plus, qui dit travail gratuit, souvent, en fait, les gens, tu leur donnes un ongle, ils te prennent le bras. En fait, le travail gratuit, c'est un peu ça. C'est, souvent aussi, il y a ce côté...
Ça rejoint ce qu'on disait à l'instant sur établir une relation de travail. Et ce qui fait que quand tu n'as pas une relation contractuelle, quand tu n'as pas un accord sur la rémunération, le temps, les objectifs définis, en fait, le problème du travail gratuit, c'est il y a d'une part le côté ne pas être payé pour ce que tu fais, mais ça peut être un choix. Mais c'est surtout, il n'y a pas le cadre, en fait.
Et oui, et puis en plus, travail gratuit, tu tombes direct dans l'affect. Direct. Bah, alors là, tu tombes mais genre entièrement dedans. Et là, tu peux avoir des trucs hyper toxiques qui s'en développent, quoi. Donc.
Moi, je me souviens que c'est toi qui m'as fait découvrir le Tumblr si mon graphiste était maçon.
Mon maçon était illustrateur.
Si mon maçon était illustrateur. Et donc c'était un Tumblr qui, en gros, prenait des vrais dialogues, échanges clients-illustrateurs, mais appliqués à la maçonnerie.
Ouais.
Alors,
c'était des trucs du genre « Ah, bah... vous me construisez une maison et puis si je la trouve jolie, vous pourrez en construire une deuxième et je vous payerai. » Et t'es en mode genre, bah, paye-moi la première maison, t'es con quoi. Ou soit du genre, tu construis entièrement la maison et le client fait, bof, je la voyais en bleu. Bah, je vais pas payer alors vu qu'elle est pas bleue. Enfin, ça n'a aucun sens. Je pense qu'il est encore actualité. Et puis c'est terrible parce qu'en plus... Tous ces trucs sont encore d'actualité et je pense que ce Tumblr, il a bien 15 ans. Tu vois.
Oui, il est très très, il est très, très vieux. Quoi.
15 ans, non, 10 ans.
Ok. Donc, je résume les conseils. Attention à comment tu instaures ta relation professionnelle. Et non, en fait, le gratuit, c'est pas un passage obligé. Si tu le fais pour toi, parce que tu as envie de le faire pour toi, il met un grand bien t'en face, mais c'est une relation de toi à toi. Si c'est un moyen de pression, peu du chantage... à la visibilité.
C'est ça.
N'oublions pas que la visibilité ne paye pas les courses à la caisse du supermarché.
La visibilité ne paye pas le loyer. Voilà ça rime.
All right. Cyrielle, quel est l'accomplissement, la victoire qui te rend la plus fière et pourquoi ?
En fait, c'est plus général. C'est... En fait, je suis contente de l'impact de ma production. Ça veut dire que le vrai sexe de la vraie vie, c'est des ouvrages qui sont... Bah, en fait, c'est des bouquins qui, à la base, n'avaient pas la promesse de devenir des grands bouquins ou des choses comme ça. Enfin, ils sont pas des grands bouquins. Hein, donc, mais tu vois, genre, c'était fait d'un côté un peu modeste. Tu vois, genre, bon, bah, je pense qu'il y a un truc qui merde. Je trouve que là, ça me fait un peu chier. J'aurais bien aimé qu'on me raconte comment c'était le vrai sexe de la vraie vie et pas un espèce de gloubi-boulga un peu pourri. Et en fait, c'est parti d'un postulat très simple. De cette culpabilité là qui nous ronge tous alors qu'on est censé être cool, peu importe si t'en fais ou pas. Et en fait, l'impact qu'a eu le vrai sexe de la vraie vie sur les gens m'épate toujours autant. Parce que en fait, mon but, c'était de montrer le vrai sexe de la vraie vie sous toute la pluralité de formes que c'est. Alors bon, j'ai pas fait 25 000 tomes. Ça veut dire que vraiment, j'ai 0,0001% de la sexualité.
Mais c'est déjà une représentation incroyable comparée à l'unicité des représentations porno.
Qui est, vu que c'est sur base de témoignages, je dois encore et remercier encore et toujours les personnes qui ont accepté de témoigner dans ce bouquin, qui ont fait énormément. Et en fait, quand les gens... Ça arrive encore, des gens qui me disent « Ah, putain, enfin, c'est les meilleurs compliments. » Genre « Ah, je me sentais mal et je comprenais pas. Et puis, voilà, ton bouquin m'a fait découvrir que je souffrais de vaginisme, que le fruit, il n'y a pas que moi. » Tu vois, ou des trucs comme ça. Ça peut être des trucs hyper importants où des gens, où des personnes se reconnaissent dedans parce qu'ils sont complètement invisibilisés dans notre société. J'ai eu une personne en dédicace qui m'a dit « Cyrielle, j'ai eu ma première éjaculation féminine et j'ai pensé à toi. » Et j'étais comme ça, j'étais genre « Wow !» J'étais super.
Mi-génial, mi-gênant.
Voilà, mi-génial, mi-gênant.
Mi-gé.
Et c'était adorable. Et en plus, toute la différence est, c'est que si c'était un homme qui m'avait dit ça, j'aurais fait « Ok, est-ce que vous pouvez le sortir ?» Et en fait...
Sécurité.
Mais vu que ça venait de cette prof qui était trop cool et tout, j'ai fait « Écoute... »
T'es misandre, c'est tout, hein. Hyper, on a compris.
Rien à foutre. Écoute, j'essaie de contrebalancer des années de misogynie. Je suis... Allez, la misandrie. Je prends. Et non mais c'est fou, et tu vois, genre quand tu vois l'impact, et même au-delà de ces bouquins-là, tu vois, genre je sens que je peux aider, c'est un putain d'accomplissement, tu vois. Quand quand il y a eu les problèmes de l'URSSAF avec les échéanciers, j'ai fait des stories et j'ai reçu genre masse de DM de jeunes qui étaient en mode genre « Oh putain, tu m'as trop aidé !» parce que je les avais mis au courant qu'il y avait une régulation et qu'ils pouvaient le faire, etc. Et tu vois, genre... Ça fait des gousilles, tu vois.
Ça fait du bien d'être utile.
Mais ouais, grave. Et tu vois, genre dans ma zone de confort, tu pourrais mettre une boîte, être utile aussi.
Est-ce qu'il y a une critique ou un reproche que tu es fière d'avoir reçu ?
Moi, c'était peut-être... Je suis toujours excessivement empathique. Genre, t'es trop sensible, c'est bon, t'en fais un peu des caisses et tout. Genre, le fait d'être empathique, je trouve que c'est... Enfin, à l'époque, j'étais genre, putain, j'ai l'impression que t'es genre, t'es une éponge à sentiments, et j'étais un peu... J'arrivais pas trop à quoi en faire, tu vois, après, je suis pas dans l'hypersensibilité, parce que je pense pas être diagnostiquée hypersensible, mais je sens que j'ai une empathie accrue qui m'a joué des tours quand j'étais plus jeune. Et donc,
ce que tu disais tout à l'heure sur le fait d'être un peu attiré par la lumière des autres et de cramer
et de me cramer la gueule assez rapidement. Et en fait, il s'avère que mon empathie, c'est devenu une énorme force maintenant pour pouvoir faire des histoires qui s'approchent le plus de ce que les gens peuvent vivre. C'est une des plus belles qualités, je trouve, l'empathie. Qui est absolument pas valorisé dans cette société-là, parce qu'à partir du moment où tu fais place au sentiment, la société te dit « c'est plus la merde, tu préfères la force et le courage ».
Tu es faible.
Voilà. Moi, c'est ce que... C'est tellement... Je sais que c'est mon moteur, tu vois. Et puis, ça me permet... Je pense que ça me permet de toucher au plus vrai des histoires, etc.
Merci beaucoup. On arrive dans la toute dernière partie, ça va aller assez vite, ouais. Puisque je vais te faire une série de propositions et tu vas choisir entre A,
okay.
A ou B. Alors, je sais qu'on est tous un peu des deux, donc merci de ne pas dire ça va m'énerver. en revanche, tu as le droit de ne pas répondre à une question. D'accord. Je préfère que tu m'expliques pourquoi.
Okay.
Tu peux aussi, tu veux expliquer une réponse, tu peux le faire aussi. D'accord. Le mieux, c'est que ça reste un peu bref quand même, okay. Mais parce que ça fait une heure et quart qu'on parle, moi ça me va.
Oh la vache.
J'ai le time, mais c'est pour toi. Prête ?
Yes.
En règle générale, dans la vie, tu es plutôt optimiste ou pessimiste ?
Optimiste.
En règle générale, dans la vie, tu es plutôt anxieuse ou détendue ?
Détendue. Mais je ne l'ai pas toujours été. Depuis que je me suis fait engueuler dessus par Angela Merkel, tout va beaucoup mieux.
Pardon ?
J'ai fait une vidéo sur ça où j'ai dessiné Angela Merkel, on aurait dit Mélenchon avec une perruque, et Angela Merkel l'a vu et m'a fait 999. Donc tout va mieux depuis ça et ma carrière n'a pas été réduite en morceaux, donc ça va beaucoup mieux quoi. Tout est vachement plus détendu.
En règle générale dans la vie, tu es plutôt nostalgique du passé ou excité par l'inconnu de l'avenir ?
Complètement inconnu de l'avenir, j'en ai rien à faire, je suis pas du tout nostalgique.
En règle générale dans la vie, tu es plutôt amatrice des foules ou des moments de solitude ?
Foule. Je déteste la solitude, ça me déprime.
Mais t'es pas freelance qui bosse de chez elle ?
Oui, bah j'ai...
T'es à la campagne ?
Je suis pas à la campagne. Il y a des gens autour de moi. Non, mais en fait, j'ai constamment de la musique, des podcasts et du live Twitch. Je suis pas faite pour... Enfin, je suis freelance parce qu'au XXIe siècle, on a des moyens de communiquer, sinon je pourrais pas.
En règle générale, dans la vie, tu es plutôt team profiter de la vie ou travailler maintenant pour profiter demain ?
J'aimerais profiter de la vie, mais c'est travailler maintenant pour profiter demain.
T'es plutôt la fourmi dans la cigale et la fourmi.
Tout à fait.
Mm-hmm. En règle générale dans la vie, tu es plutôt confiante ou prudente ?
Confiante.
En règle générale dans la vie, tu es plutôt organisée ou bordélique ?
Tellement organisée. J'ai des docs Excel pour tout.
En règle générale dans la vie, tu es plutôt perfectionniste ou pragmatique ?
Pragmatique.
Merci beaucoup Cyrielle, c'était top.
Bah merci à toi, c'était trop bien, tu m'as posé tellement de bonnes questions. Non mais j'en ai fait des podcasts et des interviews, surtout des interviews, et ça faisait longtemps que j'ai pas eu des bonnes questions.
Bah merci, ça me touche, je le garde au montage, c'est pour mon ego dans ma zone de confort.
C'est ça, c'est pour ta petite boîte, et prends-en une plus grande.
Merci beaucoup Cyrielle.
À plus.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet entretien jusqu'au bout. Je rappelle donc que le prochain album de Si, Radium Girls, édité par Glénat, sortira en août 2020 et non pas en avril. Force, courage, patience et confinement. Et à très vite, à la rescousse du monde. Merci beaucoup d'avoir écouté cet entretien jusqu'au bout. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le réaliser. Les Impertinentes est un podcast d'interview parcours portrait réalisé par moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur les flux de Tuto Conquérir le Monde, Activiste et Les Impertinentes. Vous pouvez interagir avec moi sur Instagram à travers le compte @conquérir.le.monde ou sur mon compte @clem_bodoc. Je me finance entièrement grâce à la publicité et à vos dons sur Patreon. C'est www.patreon.com/clembodoc. Moins cher et tout aussi précieux que l'argent, vous pouvez m'aider à faire connaître ce podcast en le partageant autour de vous, en allant mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire positif. Tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast. Merci beaucoup pour votre écoute, merci pour les étoiles, merci pour les messages et à très vite.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.